Alors, on va continuer notre étude du livre de la Genèse. Ce matin, on va faire Genèse 29, versets 1 à 14. J'ai intitulé le sermon d'aujourd'hui « La providence de Dieu est parfaite dans l'exil de Jacob ». On sait que Jacob était en exil. Il voulait sauver de son frère Ésaü, qui avait l'intention de le tuer. Et sur les conseils de son père et sur les conseils de sa mère, il avait décidé d'aller chercher une épouse là où son père et sa mère lui avaient conseillé d'aller. Alors, il était en exil. On a vu que Dieu est intervenu. On avait, si je me souviens bien, la semaine passée, on a dit que Dieu avait intervenu dans sa vie au moment où il y avait à peu près 10 % du voyage de fait. Il y avait 800 km à faire. De partir de l'endroit où il était et s'en aller à Charan, c'était 800 km. C'était comme partir d'ici, monter à Rouyn-Noranda. Pour me donner une idée, là, à pied, tout seul, c'est un grand voyage. Dieu a eu pitié de lui, il est intervenu après 10 % de son voyage, et on sait qu'il lui a montré l'échelle qui a un rapport avec Jésus-Christ, les anges qui montaient, descendaient dessus, et tout ça. Il a été fortement encouragé. Alors, on avait vu que Dieu avait fait des promesses à Jacob, et lui avait dit qu'il serait toujours avec lui, qu'il n'avait pas besoin de s'inquiéter, qui reviendrait, qu'il le ramènerait dans son pays. On voit que Dieu lui a fait des promesses importantes. Et quand tu fais un voyage, puis il te reste encore 720 km à faire, et que les premières 10 % ont été difficiles un peu, coucher dehors quand tu n'es pas habitué, tout ça, tous les dangers qui te guettent quand tu dors à la Belle Étoile, les 720 km qui lui restaient à faire ont été comme faciles. Parce que Dieu lui avait fait des promesses et ça l'avait fortement encouragé. Alors, au moment que c'est arrivé, il était rempli de crainte, il avait l'âme troublée. Et Dieu lui avait fait voir cette échelle-là et lui avait parlé. Il lui avait fait des promesses dans le chapitre 28 qu'on a étudié la semaine dernière. Voici la promesse qu'il lui avait faite dans Genèse 28, verset 15. Là, il faut se rappeler que c'est Dieu qui parle. Quand Dieu parle, à quelque part, c'est pesant. T'es sûr que ça va arriver ce qu'il dit. Et voici, je suis avec toi, et je te garderai partout où tu iras. Et je te ramènerai en ce pays, car je ne t'abandonnerai point que je n'ai fait ce que je t'ai dit. C'est-tu rassurant, ça? Au début, tu as 80 km, puis tu en restes encore 720 à faire. Que Dieu te fasse une pareille promesse, ça doit te rendre les pieds légers, comme on dit. Hein? Alors, quelque part, c'est important de se rappeler qu'à l'intérieur de ce petit verset-là, 15, il y a 5 choses que le Seigneur promet à Jacob. Il lui promet d'abord sa présence. Tu as un gros voyage à faire. Dieu lui-même va être présent. Parce qu'il dit, je suis avec toi. Après ça, il lui promet sa protection. Tu as un grand voyage de même, tu traverses toutes sortes de difficultés, tu rencontres des bêtes sauvages, tu peux rencontrer des bandits, toutes sortes de choses. Et il lui dit, je te garderai partout où tu iras. Troisième chose, il lui garantit, il lui fait la promesse qu'il va lui donner de la direction. N'est-ce pas des fois qu'on arrive dans la vie, des fois on a besoin de direction, on ne sait pas, là, je ne sais pas trop, devrais-tu prendre ce chemin-là, devrais-tu prendre ce chemin-là? Puis des fois, on n'est pas sûr de nous, mais quand Dieu dit « je vais te diriger », on a confiance et on... Quatrième chose, il lui promet sa provision, car je ne t'abandonnerai pas. Durant toutes ces 720 km-là qui te restent à faire, je ne t'abandonnerai pas, je vais pourvoir à tous tes besoins sans aucune exception. Et la dernière, c'est sa promesse de sa fidélité. Quand Dieu dit quelque chose, il dit que je n'ai fait tout ce que je t'ai dit. Quand Dieu parle, les 5 choses qu'il lui a promis, dites-vous une chose, c'est que durant les 720 km qu'il restait à faire, Dieu a été avec lui et il a fait tout ce qu'il a. Il dit que je t'ai dit, ça va s'accomplir. Alors, le voyage que devait effectuer Jacob était très long parce qu'il devait le faire à pied. Moi, quand je descendais de Rouyn-Noranda, puis que je venais à Lac-Mégantic, je trouvais le voyage long, même si je le faisais en auto. Puis je le faisais même pas dans toute d'une shot, je le faisais, comme on dit, dans deux, coupé à moitié, j'arrêtais à Saint-Jérôme. Je trouvais ça long, puis je faisais ça à 100 km à l'heure. Faire ça à pied, j'imagine, partir d'ici, puis monter à... Et il me semble que je trouverais le chemin long un petit peu. Alors, il y avait 80 km d'accompli lorsque Dieu lui a fait ces promesses-là. Donc, il y avait 800 km de Beersheba à Charan. Alors, l'expérience que Jacob a eue à Bethel qui veut dire maison de Dieu, alors, qui s'appelait avant Luz, ça a eu un très grand effet sur la personne de Jacob. Donc, il a continué son voyage, mais continué son voyage avec un nouvel état d'esprit, l'assurance. Alors, quand on regarde le chapitre 28, ça fait beaucoup de versets pour parler de 80 km de voyage. Pour les 720 km qui restaient à faire, Dieu utilise un verset. C'est quand même, quand tu t'arrêtes, là, pour parler de 720 km, il utilise un verset. Puis pour parler du début, il utilise tout un chapitre. Quelque part, c'est parce que c'est significatif, ça dit quelque chose. Alors, on faut se souvenir que sa mère lui avait dit, « Bon, ben là, ton frère, il est en colère après toi. Va-t'en te chercher une femme dans le pays de mon frère, là, puis dans quelques temps, je vais aller chercher. » Est-ce que c'est ça qui s'est passé? Il avait 75 ans. Lorsqu'il a quitté Beersheba. Et il ne devait revenir dans son pays qu'à l'âge de 95 ans. Autrement dit, sa mère, là, elle s'est trompée, pas à peu près, en 10 ans. Elle a eu le temps de mourir avant. Alors ici, 95 ans, il s'est passé 20 ans au début de son arrivée, quand il a rencontré Laban et sa nouvelle épouse, Rachel. Mais une chose qu'il ne savait pas, c'est que, oui, Dieu était bon avec lui au début de son voyage, mais Dieu avait une multitude de choses à lui enseigner durant ces 20 ans-là, à transformer son caractère. On sait qu'il avait tendance à être trompeur. Il a trompé son père, il s'est déguisé, il a menti à son père. Et le Seigneur, bien entendu, il était gracieux envers lui, en permettant que Ésaü ne le tue point. Mais aussi, il avait une multitude de choses à lui enseigner. Et il s'est servi de ces 20 ans-là pour lui enseigner plein de choses, comme on va le voir au cours des prochains sermons. Alors, il y avait 75 quand il a quitté, puis quand il est revenu, il avait 95. Mais durant ces 20 ans-là, Dieu lui a enseigné des choses. Alors, le Seigneur va souvent utiliser la providence. Quand on parle, vois-tu le titre que j'ai donné, c'est « La providence de Dieu est parfaite dans l'exode, dans l'exil de Jacob ». La providence de Dieu, c'est les circonstances que Dieu permet que tu vives pour des... On en vit tout... La providence, elle s'exprime dans toutes nos vies, sans aucune exception. Que tu sois païen ou chrétien, mais si tu es chrétien, c'est encore... Parce que la Bible nous dit que toute chose qui arrive dans nos buts contribue à notre bien-être et à nous rapprocher de Dieu et à nous rendre semblables à son Fils Jésus-Christ. C'est un gros contrat, hein? C'est pas pour rien que ça prend toute la vie. Le Seigneur travaille avec nos circonstances. C'est vraiment un tricot, hein? Parce que le mot grec, ça dit « travaille ensemble ». Toutes les choses qui nous arrivent dans le courant de notre vie quotidienne, ce sont des choses que le Seigneur utilise comme un tricot, comme un tissage. Il nous tisse notre vie pour nous enseigner un paquet de choses. Et on a beaucoup de choses à apprendre. Alors, c'est pour ça que ça dure longtemps. Dans le psaume 32, au verset 8, ça dit, Dieu dit, « Je te rendrai intelligent, m'a dit l'Éternel, je t'enseignerai le chemin où tu dois marcher, je te conduirai, mon œil sera sur toi. » C'est vraiment un verset qui parle, oui, que Dieu, il te voit, il voit tout ce que tu fais, il voit tout ce qui t'arrive, et c'est lui qui permet les choses qui t'arrivent dans ta vie, c'est lui qui les permet, c'est lui qui les commande même. Alors ici, on va voir comment la providence, les circonstances de Jacob, comment elles vont se tisser pour arriver à ce que Dieu veut. Alors le premier point, c'est les 5 premiers versets. La providence de Dieu s'est concrétisée. Autrement dit, on va voir comment Dieu utilise les circonstances dans la vie de Jacob pour lui enseigner des choses, pour concrétiser les promesses qu'il lui avait faites dans Genèse 28, 15 qu'on a lu tantôt. Alors, dans Genèse, la présence divine, la certitude de Jacob de la présence divine dans le verset 1. Jacob se mit en marche et s'en alla au pays des fils de l'Orient. Un verset pour parler d'un voyage de 720 km. Pourquoi vous pensez qu'il y a un verset pour parler d'un aussi long voyage? C'est parce que notre ami Jacob, là, il était rassuré. Dieu va être avec moi, Dieu va me protéger, Dieu va accomplir sa promesse. Une traduction littérale, j'ai trouvé ça dans un commentaire, je trouve ça très intéressant. Si on traduisait de l'hébreu au français le verset 1, ce serait « Jacob souleva ses pieds ». C'est sûr que on peut pas traduire l'hébreu toujours de façon très littérale, mais la façon littérale de le traduire, c'est « Jacob souleva ses pieds ». Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que sa marche devenait légère. Et ce 120 km qu'il a fait, le reste, là, ça ne l'énervait plus, il n'y avait plus rien là. Alors, l'idée qui est véhiculée par « soulever ses pieds », par cette expression-là, c'est que Jacob continua son voyage avec empressement. Soulever ses pieds, on va dire, on y va, je sais que je vais me rendre au bout, puis je sais que le Seigneur va permettre que je réussisse mon voyage. Alors, encouragé, il part avec empressement, il est encouragé et il a le cœur léger. Le premier 80 km, il ne devait pas avoir le cœur léger, parce qu'il devait tout se souvenir de ce que son frère, les menaces à son frère. Mm. Il devait tout se souvenir des choses. Et quelque part, là, il fait le 120 km. Dieu fait la même chose dans nos vies, des fois. Il nous accorde des grâces, des miséricordes, dans les moments difficiles. Il faut se souvenir de ça, il faut le reconnaître. Alors, les 720 km qu'il lui reste à faire vont être plus faciles à faire à cause des promesses. La présence, la protection, la direction, la provision et la fidélité. Si après avoir vécu quelque chose de difficile, Dieu faisait la même chose avec nous, Dieu nous parle par sa parole. Hein? Il fait la même chose qu'il a fait avec Jacob. Des fois, lui, c'est parce que lui, il l'a entendu dans un rêve. Mais nous, quand Dieu nous parle par sa parole, des fois, il nous dit des choses qui viennent nous chercher. Ça nous parle presque aussi fort que s'il nous le disait verbalement. Parce que ça le dit, c'est la parole de Dieu. Parfois, on lit la parole de Dieu pas toujours correctement. Trop rapidement, en questionnant pas assez la parole. Parlant de ça, je suis en train de lire un livre, je vais vous partager ça bientôt. En train de lire un livre sur comment améliorer ta vie de prière. Et je trouve que la manière, c'est simple, c'est prier par la Bible. Prier par la Bible. Et il est en train de démontrer que prier, par exemple, les psaumes, tu lis les psaumes, puis en lisant chaque verset, il y a des idées qui te montent à l'esprit pour prier. Puis il dit, à partir du moment que tu vas commencer à prier comme ça, ta vie ne sera pas une monotonie de toujours répéter la même chose tout le temps. Comme il dit, les vieilles choses que tu répètes sans cesse, puis il y a un temps que tu trouves la vie de prière, tu trouves ça difficile et ennuyeux. Il dit, quand tu fais ça, tu ne trouves plus jamais la vie de prière difficile et ennuyeux, tu trouves ça agréable. Tu lis un verset, là il prend l'exemple, par exemple, du psaume 23, « L'Éternel est mon berger ». Il dit qu'il a montré ça une fois à une femme, puis il dit qu'elle est partie en prière sur le verset « L'Éternel est mon berger ». Elle a resté 20 minutes en prière juste sur ce petit bout-là. Parce qu'elle s'est mise à réfléchir, « L'Éternel, c'est mon Dieu, mon berger, il s'occupe de tout. » Et elle s'est mise à réfléchir et à prier en fonction de ce qu'elle disait. Moi, je suis convaincu que j'étais en train de l'essayer. Hier, Lucie est arrivée, puis elle dit « Oh, on va se coucher. » Ben, je dis « J'étais en train. » Parce qu'il dit « Essayez-le. » Là, il nous donne 5-6 versets. Il dit, fallait, là. Fais pas juste. Il dit, je te connais, là. Il dit, tu vas continuer à lire le livre. Non, non. Arrête mais en pratique que je viens de t'enseigner. Alors, je partage 100%. Alors, Jacob est passé d'un état d'esprit d'un fugitif qui est rempli de crainte, rempli d'angoisse, rempli d'incertitude, parce qu'il va se dire, « Ouais, mais je vais-tu me rendre? Je vais-tu la trouver la femme que Dieu veut que j'aie? » Alors, mais là, il part, il est déterminé, il est reconnaissant envers de tout ce que Dieu va faire pour lui. Il sait maintenant que Dieu va faire réussir son voyage. Il part maintenant rempli d'espoir et avec des buts spirituels élevés. Il sait que la femme qu'il va rencontrer, il va avoir des enfants avec elle et que par ces enfants-là, la lignée messianique qui part de Genèse 3:15, la lignée par lui, il va être un maillon de la chaîne qui va faire en sorte que Jésus va arriver éventuellement, comme promis dans Genèse 3:15. Donc, il part dans le verset 1, on a la certitude de Jacob de la présence divine. 720 kilomètres, ça lui paraît une pinotte, comme on dit. Alors, je ne sais pas comment tu peux faire de kilomètres par jour en marchant, une trentaine peut-être. Ça fait pas mal de jours. Il a dû voyager quelques semaines encore à pied. Alors, il y a l'assurance aussi de la direction divine. Voyez-vous, il se promène et il arrive à un endroit, exactement l'endroit où il va rencontrer des personnes qui connaissent Laban. C'est là qu'il s'en va. Et en même temps, Dieu permet qu'il arrive au bon endroit pour rencontrer la bergère, qui est la future femme de Jacob. Versets 2 et 3. « Et il vit, et voici un puits dans les champs. Et voilà trois troupeaux de menu bétail couchés auprès, parce que de ce puits on abreuvait les troupeaux, et la pierre qui était sur la bouche du puits était grande. Et tous les troupeaux se rassemblaient là, et on roulait la pierre de dessus la bouche du puits, et on abreuvait le menu bétail, et on remettait la pierre à sa place sur la bouche du puits. » Donc Jacob a été providentiellement dirigé par le Seigneur lui-même pour arriver au bon endroit. C'est grand pays, hein? Pour que Dieu permette que tu arrives. Là, c'est à la bonne place. Il s'en va vers le bon endroit après un voyage de 800 km à pied. Et il va rapidement se rendre compte que le Seigneur l'a dirigé vers les bonnes personnes. Un grandeur de pays, tu sais. Il arrive juste à la bonne place, puis il arrive juste à un endroit où la personne qui cherche, là, il lui pose la question. Oui, on le connaît, nous, là-bas. On voit la main, la réalisation des promesses que Dieu a faites. Alors, les Saintes Écritures nous parlent de plusieurs événements hautement significatifs qui se sont déroulés autour d'un puits. Parce que l'image du puits, dans les Écritures, ça revient à plusieurs endroits. Et c'est très riche, parce que la plupart des événements qui se passent auprès d'un puits dans les Écritures, que ce soit dans l'Ancien ou dans le Nouveau Testament, c'est toujours très riche spirituellement. Par exemple, des événements qui se sont produits autour d'un puits. La femme d'Isaac, Rebecca, a été trouvée auprès d'un puits, en Genèse 24, versets 15 à 21. On n'ira pas tout retourner les versets. C'est juste pour parler de l'idée du puits et sa signification spirituelle dans les Écritures. La femme de Jacob, Rachel, a été trouvée près d'un puits. La femme de Moïse, Séphora, a été trouvée près d'un puits dans Exode 2, versets 16 à 22. La femme samaritaine, rencontrée par Jésus, c'était où? Auprès du puits de Jacob. Le puits de Jacob. Quelque part, c'est riche spirituellement. Et quelque part, quand on arrive sur des passages comme ça, il faut s'arrêter. Je vous conseille très fortement, achetez-vous un bon dictionnaire biblique. Ça vaut la peine, je vous le dis. Et quand vous avez des mots comme ça, tu dis, « Ah, un puits, je sais c'est quoi, un puits. » Tu sais c'est quoi, mais en rapport avec la Bible, est-ce que tu le sais tant que ça? Ça, c'est une autre affaire. Et quelque part, quand tu vas lire, par exemple, un article dans un dictionnaire biblique sur le puits, on va te faire sortir les idées que je viens de vous dire là. Regarde ce qui s'est passé là, parce que Dieu veut t'enseigner des choses par ça. Alors, le lieu qu'est le puits est toujours symbolique, très chargé symboliquement. L'eau du puits, on sait de l'eau, c'est porteur de vie et de fécondité pour les troupeaux. S'il n'y a pas d'eau, là, les troupeaux, les trois troupeaux là, qu'ils ont trouvés, là, s'il n'y a pas eu d'eau, là, les troupeaux ils vont crever. Là. L'eau, c'était essentiel. Pas pour rien qu'on mettait une grande pierre sur le dessus. Parce que la grande pierre, elle avait pour but que ça fallait être normalement être plusieurs pour être capable de la tasser. Et quelque part, il attendait tous un moment particulier pour dans le but de faire attention à l'eau. Dans ces pays-là, l'eau était une ressource précieuse. Elle l'est encore aujourd'hui dans beaucoup de coins de pays. L'eau est symbole de fécondité pour les êtres humains. Quand on baptise quelqu'un, on le baptise où? Dans l'eau. Le serviteur d'Abraham va y rencontrer Rebecca, et qui deviendra... alors, c'est aussi auprès d'un puits que Jacob rencontre Rachel. Moïse, qui rencontre son épouse Séphora, une des sept filles de Réuel, qui l'a défendue contre des bergers qui lui faisaient des misères. À quelque part, c'est intéressant, quand on remet toutes ces idées-là ensemble, de voir que Dieu se sert de l'image du puits pour parler d'idées intéressantes. Dans le récit de la Samaritaine, Jésus se désigne lui-même comme étant la source de vie. Dans Jean 14, verset 14, dans Jean 4, excusez, Jean 4, verset 14, le Seigneur il dit à la Samaritaine, « Mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura plus jamais soif, mais l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau qui jaillira pour la vie éternelle. » Il est en train de te dire qu'il va te donner le Saint-Esprit. Et ça va jaillir en dedans de toi-même pour la vie éternelle. Versets 4 et 5, la démonstration à Jacob de la provision divine. Donc, on a vu la présence, on a vu aussi la direction. Et là, on est en train de voir dans le verset 4 et 5 la provision. Dieu avait dit qu'il serait avec lui, qu'il s'occuperait de lui. Verset 4 et 5, Jacob dit au berger, « Mes frères, d'où êtes-vous? » Ils lui répondirent, « Nous sommes de Charan. » Tu fais un grand, grand, grand voyage. Puis tu sais que c'est là que tu t'en vas. Puis les autres, ils savent où ce que c'est. Là, en plus, il leur dit, « Connaissez-vous Laban, fils de Nacor? » Ils lui répondirent, « Nous le connaissons. » Semble dans ta tête, là, il doit se passer quelque chose. « Seigneur, tu es en train d'accomplir ce que tu as promis. » C'est ça qui se passait. Alors, le Seigneur a dirigé Jacob vers les personnes qui vont lui confirmer qu'il est sur la bonne voie pour réussir son voyage. Premièrement, la bonne famille. Laban, on sait qu'il va jouer un rôle important dans la vie de Jacob. Il va jouer un rôle d'éducateur. Il faut voir que si Jacob avait tendance à la tromperie, il va frapper chaussure à son pied avec Laban, parce que Laban est un maître trompeur aussi. On va le voir au cours des prochaines semaines. Alors, ici, Laban va d'abord servir à Jacob pour assurer sa survie par la pratique de son métier. C'est un berger. Et lui, il a des moutons. Il va le mettre en charge de moutons. Et à cette époque-là, quand tu voulais une femme, tu payais une dot. Et là, la dot, c'est 7 ans. Il a dit... « Je vais te servir 7 ans si tu me donnes la main de ta fille Rachel. » C'est Rachel qui aimait. Mais on sait que Laban, il en a passé une petite vite. Il a fait marier Léa. C'est toute une histoire. On va revenir là-dessus. Alors, bien entendu, le Seigneur lui permet d'avoir un métier qui va permettre de survivre et il va lui enseigner des leçons morales. Autrement dit, lui qui avait usé de fourberie envers son père se fera corriger de ce vilain défaut-là par Laban, qui lui est un maître en matière de fourberie, comme on va le constater dans les prochains chapitres. C'était vers Laban que son père Isaac et sa mère Rebecca l'avaient envoyé pour aller chercher une femme selon les désirs de Dieu. Là, pour souvenir qu'est-ce que la mère avait dit, qu'est-ce que le père avait dit, on va retourner un petit peu dans les chapitres. Genèse 27, versets 43-44. Donc, ici, on a le conseil de Rebecca. Rebecca avait dit, « Pars, va-t'en là. » Elle dit, « Maintenant, mon fils, obéis à ma voix, lève-toi, enfuis-toi vers Laban, mon frère, à Charan. et tu demeureras avec lui quelque temps, jusqu'à ce que la fureur de ton frère ait passé. » Elle pensait que c'était quelques semaines, peut-être, ou quelques mois, au moins 6 mois. Elle est morte, Allah a revu son fils. Genèse 28, verset 1, le commandement. À ça, on a le conseil de Rebecca et on a maintenant le commandement d'Isaac, versets 1 et 2, Genèse 28. Alors, Isaac appela Jacob et le bénit, et lui commanda, et il lui dit, « Tu ne prendras point une femme parmi les filles de Canaan. Lève-toi, va à Padan Aram, à la maison de Bethuel, père de ta mère, et prends-toi une femme de là parmi les filles de Laban. » Imaginez-vous, il arrive à la bonne place, seulement il était à la bonne place, au bon endroit physiquement, mais il était à la bonne famille, puis la future femme, ça donne qu'elle est là. Quel adon, hein? Les hasards de Dieu. Deuxième point qu'on va regarder, verset 6 à 11, la providence de Dieu qui se continue, qui permet une rencontre vraiment providentielle. Alors, il pose la question, est-ce qu'il se porte bien Laban? Il lui répondit, oui, il se porte bien, voici Rachel, sa fille, qui vient avec le troupeau. Et il dit, voici, il est encore grand jour, il n'est pas temps de rassembler le bétail, abreuver les brebis et aller les paître. Ils répondirent, nous ne pouvons pas jusqu'à ce que tous les troupeaux soient rassemblés. Alors, on roule la pierre de dessus l'ouverture du puits et nous abreuvons les troupeaux. Il arrive au bon endroit, la bonne famille, et l'épouse est là comme par hasard. Alors, la future épouse de Jacob fait son apparition par le moyen de la main invisible de Dieu qui conduit. Son introduction se fait de manière naturelle, facile, directe, manifeste. Il se rend compte que... Parce que tout de suite, il tombe quasiment amoureux tout de suite de elle. On voit, alors il donne un baiser. Imaginez-vous, à cette époque-là, tu connaissais pas une femme, puis tu te permettais de l'embrasser... À quelque part, il y a quelque chose de surnaturel qui se passe. Parce que normalement, la femme n'aurait pas dû réagir comme ça. Elle a réagi comme ça parce que Dieu permettait. Alors, dans le texte, ça a l'air à vouloir indiquer que lui, il veut dire au berger, c'est pas le temps d'abreuver, retourner. Il semble qu'il ait vu Rachel et il semble, les commentateurs disent ça, qu'il ait voulu profiter d'un moment de solitude avec elle. Mais eux, ils n'ont pas fonctionné dans son idée. Alors, on voit dans le verset 9. « Et comme il parlait encore avec eux, Rachel arriva avec le troupeau de son père, car elle était bergère. » Un drôle d'hasard. Hein? Lui est berger, la femme est bergère. Ça peut-tu mieux à donner? Alors, rappelons que le nom de Rachel en hébreu veut dire « brebis ». Intéressant. Et que le nom de la localité de son lieu de départ, il était parti de Beersheba, ça signifie « puits du serment ». Puits du serment, il arrive un puits. Quand on lit les Écritures avec attention, puis qu'on prend la peine d'aller voir les significations des noms, les significations des lieux, on est toujours richement béni. Rachel était belle de taille et belle de figure, qu'on voit dans le verset 17. C'est un petit peu plus loin, là, mais ça ne fait rien. Parce que ça le dit, qu'elle était belle. Alors, non seulement il arrive au bon endroit, en bonne famille, puis il arrive, il voit la femme, il la trouve belle. Puis elle est belle de taille, puis elle est belle de figure. Et elle était une femme idéale pour Jacob, parce qu'elle était de la bonne famille, c'est ça que son père lui avait dit, c'est ça que sa mère lui avait dit. Elle était travaillante, parce que t'occuper d'un troupeau, c'est de l'ourage, comme on dit. Elle était forte, et humble. Donc, la rencontre entre Jacob et Rachel aura l'effet d'un puissant aimant. Il est tombé comme en amour avec elle tout de suite. C'est comme s'il percevait que Dieu l'avait bien dirigé vers la bonne personne de façon immédiate. Alors, il semble que toutes les circonstances de Jacob lui crient que le plan de Dieu est en train de se réaliser sous ses yeux. Genèse 29, versets 10 et 11, j'ai intitulé ce passage-là « Une soudure providentielle ». C'est que Dieu prend deux êtres qui ne se connaissent pas du tout, mais il y a comme quelque chose qui se passe entre les deux qui fait en sorte que le comportement de l'épouse est déjà... normalement, elle aurait dû « Hey, qu'est-ce que tu fais là de m'embrasser? Hey, marche pas de main! » Même aujourd'hui, on ne marche pas de main. Et dès que Jacob vit Rachel, fille de Laban, remarquez dans ce verset-là, dans le verset 10, combien de fois le mot « mère » apparaît. Trois fois. Parce que ça dit, « Et dès que Jacob vit Rachel, fille de Laban, frère de sa mère, et le troupeau de Laban, frère de sa mère, ils s'approchèrent, roula la pierre de dessus l'ouverture du puits, et abreuva le troupeau de Laban, frère de sa mère. » Pourquoi vous pensez que c'est trois fois le mot, la mère apparaît à ce moment-là? Sans doute que dans l'esprit de Jacob, il se rend compte que tout ce qui s'est passé avant, il s'ennuie de sa mère, il s'ennuie de chez eux. Sa mère lui revient à l'esprit, trois fois la mention de la mère. Et verset 11, c'était un peu surprenant parce que tu dis, « Et Jacob baisa Rachel. » Une fille que tu rencontres pour la première fois, tu la baises, tu lui donnes un baiser, et élevant la voix, il pleura. Si on faut faire le lien avec le fait qu'il mentionne trois fois le nom de sa mère. Là, quelque part, il devait avoir un flot d'idées qui se présentait. Dieu est en train de m'envoyer vers la bonne personne. Pourquoi il a pleuré? Il embrasse sa future femme et elle se laisse faire. Puis elle ne dit pas un mot, elle ne dit pas « Qu'est-ce que tu fais là? Toi, là, là? » Et il éleva la voix et pleura. Sûrement que c'est un paquet d'émotions qui montent dans son esprit. Seigneur, tu m'as conduit au bon endroit. Tu m'emmènes vis-à-vis de la bonne femme. Et déjà, il voyait que le voyage était réussi. Alors, la triple mention de frère de sa mère, c'est important dans le verset 10. Alors, seule la souveraineté divine peut expliquer le fait que Rachel ne lui oppose pas de résistance et qu'elle ne voit pas de déplacement dans le fait qu'il décide de l'embrasser si vite que ça. Alors, il semble que ce soit le coup de foudre pour les deux. Dieu fait en sorte que... Ou j'appelle ça la soudure providentielle. Dieu permet que la soudure se fasse. Et dans le verset 12 à 14, on a une rencontre familiale. Si Dieu voulait qu'il soit conscient que le voyage était réussi, il fallait qu'il y ait d'autres choses qui arrivent. Non seulement le bon endroit, la bonne famille, la bonne épouse. Mais ça dit, « Et Jacob apprit à Rachel qu'il était parent de son père et qu'il était fils de Rebecca. » Donc là, elle a compris qu'il y avait quelque chose de familial à l'intérieur de tout ça. Et elle courut le rapporter à son père. Il faut croire que ça faisait son affaire, parce que si tu cours pour aller annoncer la bonne nouvelle, c'est parce que tu considères vraiment que c'est une bonne nouvelle, puis peut-être que tu te dis en toi-même, « D'après moi, ça va être mon futur mari. » Tout se concerte pour une rencontre favorable avec les parents de Rachel. Le fait que Jacob s'identifie clairement auprès d'elle, comme étant parent de son père, fils de Rebecca. Alors, Rachel semble tout excitée et joyeuse de la rencontre, et elle court l'annoncer à son père. Mais là, il n'était pas encore sûr, parce qu'il n'y avait pas, autrement dit, la bénédiction du père. À cette époque-là, c'était très, très, très important. Alors ici, dans le verset 13, on a un accueil chaleureux de la part de son futur beau-père. Et aussitôt que Laban entendit parler de Jacob, fils de sa sœur, il courut au-devant de lui. Encore là, ça court beaucoup, cette affaire-là. La fille court vers son père. Lui, il court, quand il voit qu'il court vers lui, le baisa. Un baiser entre hommes, un baiser chaste. Et il le fait venir dans sa maison. Et il raconta à Laban toutes ces choses. Là, il a dû y raconter toute la patente à partir du début de son voyage. Alors, l'accueil de Jacob, c'est-à-dire de Laban, est très chaleureux. Il était attendu. Laban courut devant lui, l'embrassa, le baisa, l'invita dans sa maison de façon très hospitalière. Et il fut tout oreille pour entendre les paroles de Jacob, l'intervention, la direction divine dans toute cette affaire. Et le verset 14, c'est vraiment la signature, la rencontre, c'est réussi, ça, c'est rendu au bord de que ça va arriver, là. Parce qu'on va voir qu'un peu plus loin, un peu plus tard, lui, il va demander Rachel, mais là, c'est là que Laban va y en passer une petite vite. Il va au bout de faire un autre 7 ans, ça fait 14 ans. Puis après ça, il en a passé bien des petites vites en termes de son salaire, là. Les brebis, si vous vous souvenez du passage. Fait que pendant 20 ans, il s'est fait passer des petites leçons rapides sur le fait d'être trompeur. Tu es trompeur, on va corriger ça, on va t'en montrer un plus puissant que toi comme trompeur. Et au bout de 20 ans, il a décidé de sacrer son camp, mais je pense qu'il est à temps parce qu'il aurait arrivé des malheurs. Verset 14, on voit vraiment la signature divine, et Laban lui dit à Jacob, « Certainement, tu es mon os et ma chair, et il demeura avec lui un mois de temps. » Alors Dieu permet qu'il s'installe là, et on va voir que c'est là qu'il va tomber amoureux, vraiment, il va vouloir avoir la main, mais le père va dire « Ouh, 7 ans, ça marche. » Mais d'après les commentateurs, 7 ans de travail pour une dot, apparemment c'était beaucoup. Ça aurait dû être plus petit que ça. Mais il a voulu tellement qu'il a voulu mettre le paquet pour être certain de l'avoir, comme on dit. 7 ans. Et là, au bout de 7 ans, ben là, il s'est rendu compte que le père lui avait passé Léa le soir des noces. Et là, il avait dit, « Ben là, si tu veux l'avoir, là, remarquez aussi, c'était l'aîné. Il y a une question d'aîné puis de la plus jeune. Qu'est-ce qu'il a voulu faire avec son père, lui? Jouer avec le concept d'aîné puis le cadet? Il est en train de se faire la même chose. C'est très... Quand on se met à étudier ça, puis qu'on voit ça comme ça, tu as voulu jouer avec le concept de... Mais l'autre, il dit, « OK, moi, te passer à la plus vieille, parce que normalement, on marie à la plus vieille avant la plus jeune. » Mais il a fait semblant que oh, oui, je suis d'accord. Puis le soir des noces, il faisait noir, il mettait des voiles dans ce temps-là. Même toi, tu te réveilles la nuit, tu te rends compte que tu n'es pas la bonne femme. Tu dis, oh, il m'en a passé une petite vite. Sérieux. Allez, va. Quelles sont les applications qu'on peut mettre en pratique dans nos vies de tous les jours à partir du texte? Parce que quand on lit les Écritures, si on lit juste l'histoire, on passe à côté de ce que les Écritures sont là pour, comme on dit. Les Écritures sont là pour nous enseigner. Ça nous dit dans le Nouveau Testament que les Écritures nous ont été données pour notre instruction et pour nous servir d'exemple. À quelque part, si on lit juste l'histoire, ah, c'est intéressant, il a trouvé la plage, il a trouvé une femme. Dieu est en train de te donner des choses, des instructions pour ta vie de tous les jours. Alors, quelles sont les applications qu'on peut faire à partir du texte qu'on a vu aujourd'hui? La première, les interventions miséricordieuses et surnaturelles du Seigneur dans les moments pénibles de notre vie ont pour but de nous encourager, de nous fortifier et de nous donner des forces nécessaires pour continuer notre pèlerinage terrestre. Voyez-vous, c'est ça qui est arrivé, lui. Dieu est intervenu après 10% de son voyage et il l'a fortement encouragé. Mais Dieu fait la même chose dans nos vies, à nous aussi. Mais ces interventions-là contiennent des promesses. On les a vues 9 à 5. Présence. Est-ce que Dieu est encore présent avec nous aujourd'hui? Peu importe ce qu'on traverse. Protection. Est-ce que Dieu continue de nous protéger aujourd'hui? Direction. Est-ce que Dieu continue de nous diriger aujourd'hui? Est-ce que Dieu continue de nous donner les provisions nécessaires? Et est-ce que Dieu est encore fidèle aujourd'hui? Bien sûr. Et quand Dieu intervient comme ça dans les moments difficiles de nos vies, qu'est-ce que ça fait? Ça rend notre chemin plus joyeux, comme on vient de voir. Un verset pour parler de ce 120 km. Quand Dieu intervient et nous encourage comme ça, ça rend notre cheminement terrestre plus endurable, comme on peut dire, plus facile, plus joyeux. Première application. Deuxième application. Apprenons à lire et à apprécier les circonstances que Dieu place dans nos vies. Si on regarde dans nos vies en général, tous les jours, la semaine dernière, si vous prendriez la semaine dernière, puis vous regardez ce que Dieu a fait dans votre vie, Dieu parle par les circonstances, Dieu nous enseigne les choses par les circonstances. Et les circonstances que Dieu place dans notre vie, les Écritures nous disent qu'elles sont toutes remplies de sagesse, de lumière, et de bénédiction. Des fois, les bénédictions, quand ça fait mal, nous, on considère pas ça comme une bénédiction. Hein? On est porté à ça. Hein? Quand ça fait mal, on pense que c'est pas une bénédiction. Mais pourtant, c'est des fois par les expériences qui font le plus mal que Dieu nous enseigne les plus grandes choses. On se devrait être content de peu importe ce que Dieu nous envoie. Prions le Seigneur de nous donner la capacité de lire nos circonstances providentielles et surtout de les interpréter correctement. Parce qu'on est porté, des fois, quand ça va, quand il nous envoie des choses qui ne nous plaisent pas, on dit « J'avais-tu besoin de ça, moi, là? Hein? J'avais-tu besoin de ça? » Mais si Dieu te l'envoie, dis-toi une chose, c'est parce que tu en avais besoin. Sinon, il ne te l'aura pas envoyé. On rue d'un brancard continuellement sur les circonstances que Dieu met dans nos vies. Que ce soit la température, plein de choses. Moi, je prends la température comme idée parce que c'est tellement facile. Hein, je suis il fait chaud aujourd'hui, on braille tout le temps. Il fait frais aujourd'hui, il neige trop. Mais c'est qui a envoyé cette température-là? C'est Dieu. Quand on dit ça, là, on est en train de dire à Dieu, « Tu fais pas bien ta job, mais ce sera moi, ce sera pas demain. » Ce sera toi. Ce sera aussi bien que ce soit pas toi. Parce que la terre manquerait de beaucoup de choses. Le Seigneur voit les choses dans son ensemble. Nous, on voit juste notre petite vie et notre petit égoïsme. Quand on est, troisième leçon qu'on apprend, lorsqu'on est sur la voie de l'obéissance, le Seigneur confirme sa grâce et son soutien continuel dans nos difficultés par des manifestations concrètes de son approbation. Il arrive au bon endroit, la bonne famille, la bonne fille, accourt à son père pour lui dire ça. Lui, il écoute l'histoire, puis il dit « T'es os de mon os, chair de ma chair. » Alors, quelque part, là, il était à un cheveu que tout s'accomplisse ce que Dieu lui avait dit. Ça ne se produirait pas tout à fait comme il a voulu, là, parce que le Seigneur avait des choses à lui enseigner. Dans notre vie, c'est exactement la même chose. Alors, que notre glorieux Seigneur soit béni, loué et adoré pour la fidélité et l'intelligence de sa providence dans nos vies. Comment qu'on retiendra juste ça aujourd'hui? Quand Dieu, les circonstances que Dieu envoie dans nos vies sont parfaites, la même chose que pour Jacob. Il nous enseigne qu'on a besoin de connaître là. Et on chiale tout le temps, donc on pêche tout le temps. Et à partir du moment où on reçoit les circonstances de Dieu comme venant de sa main, et au lieu de mordre la main, on baise la main. Seigneur, c'est ça que tu m'envoies, c'est parce que c'est ça que j'ai besoin. Merci. Même si je ne comprends pas, on ne comprend pas tout le temps. Dieu n'a pas dit qu'on comprendrait toutes les circonstances qu'il nous enverrait. Il a juste dit, ils viennent de ma main, puis reconnais-les comme venant de ma main, et accepte-les. Si on les acceptait en tout temps, les circonstances que Dieu permet dans nos vies, on serait-tu malheureux? Non! On sera toujours heureux parce qu'on comprendrait que c'est Dieu qui agit et qu'il travaille dans un but précis, nous rendre semblables à Jésus-Christ. Et ça, c'est un travail énorme. Alors que notre glorieux Seigneur soit béni, loué et adoré pour la fidélité et l'intelligence de sa providence dans nos vies, qu'il soit adoré éternellement. Amen.